journal Loïc Barrière. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir bombardé sciemment un théâtre abritant un millier de civils à Marioupol. 3 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays en guerre. Comment les écoles françaises se préparent-elles à l'arrivée de milliers d'élèves ukrainiens? Nous écouterons Benoît Test, secrétaire général du syndicat enseignant FSU. Emmanuel Macron a précisé plusieurs aspects de son programme pour un deuxième quinquennat. Le président candidat a insisté sur l'indépendance de la France dans plusieurs secteurs, agriculture, industrie et énergie. Enfin, la Turquie et la Tunisie, invités du 17e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, qui se déroule à Saint-Denis et Paris jusqu'au 1er avril. Entretien avec la directrice artistique du festival, Emma Raguin. L'Ukraine demande à l'Union européenne de considérer Vladimir Poutine comme un criminel de guerre. L'Ukraine qui accuse la Russie d'avoir sciemment bombardé un théâtre dans la ville de Marioupol, un théâtre dans lequel plus d'un millier de civils s'étaient réfugiés. Si le bâtiment a été détruit, l'abri anti-bombe installé dans le théâtre n'a pas été endommagé. La majorité des réfugiés ont survécu, selon deux députés ukrainiens. La Russie dément être à l'origine du bombardement. La guerre a provoqué l'exode de 3 millions d'Ukrainiens depuis le 24 février. 100 000 personnes ont quitté leur pays ces dernières 24 heures. La moitié des réfugiés sont des enfants. La France se dit prête à accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. L'école française va donc devoir s'adapter à l'arrivée de milliers d'enfants traumatisés par la guerre et qui ne parlent pas français. On écoute Benoît Test, le secrétaire général du syndicat enseignant FSU.
Nous, on est intervenu très rapidement sur cette nécessité d'accueillir très largement les enfants des réfugiés ukrainiens dans les écoles pour les scolariser. D'ailleurs, avec l'ensemble des services publics aussi, de se mettre en situation d'accueillir ces populations. Et on a demandé notamment à ce que tous les dispositifs UPE2A qui accueillent les élèves allophones, comme on dit, c'est-à-dire qui parlent pas la langue et qui sont des structures d'accueil intermédiaires, puissent être activés. On a eu quelques réponses et effectivement, il y a eu un abondement de moyens dans quelques départements. Pas suffisamment sans doute, et on va sans doute avoir dans les prochains jours une situation qui risque de coincer un petit peu en termes de nombre d'enseignants disponibles, même si après, des solutions seront trouvées à chaque fois. On intervient à chaque fois pour signaler à l'administration quand il peut y avoir une difficulté ici ou là. On n'en note pas beaucoup pour l'instant de difficultés. Les élèves sont accueillis. Nous on est intervenu aussi au niveau du ministère, bien sûr, mais on le fait beaucoup dans chaque département en fait, parce que c'est souvent les directions départementales qui gèrent ça. Et sur le terrain, on constate que Ça prend forme pour l'instant. Alors, on verra s'il y a un flot plus important de réfugiés. Nous, on pense que les structures sont pas suffisantes en l'état, donc on demande encore un abondement de moyens. Et c'est tout à fait possible de le faire en recrutant quelques personnels supplémentaires. Il faut aussi laisser le temps, évidemment, à tout le monde de s'installer, de reprendre ses esprits, comme on dit, malheureusement. On sait bien que c'est des situations extrêmement compliquées.
Et justement, est-ce qu'il y a un besoin psychologique pour ces personnes, oui, pour ces élèves qui arrivent en France?
Justement, on pense qu'effectivement, il y a un besoin d'abord de les scolariser assez rapidement, parce que ça fait partie aussi d'une installation la moins pire possible. Ça fait partie de la nécessité de trouver des repères qu'on espère le plus provisoire possible. Mais bon, malheureusement, on peut quand même craindre qu'ils soient amenés à rester quelques semaines, voire quelques mois, faut être totalement réaliste. Et le retour en Ukraine, à mon avis, enfin, vu l'évolution de la situation, je suis pas spécialiste, mais ça risque quand même d'être assez éloigné. Donc il faut leur donner des repères qu'il faut construire aussi dans la bienveillance. C'est extrêmement important avec ces enfants. Et donc il faut aussi travailler sur le plan psychologique et social. On a beaucoup d'infirmières scolaires aussi qui nous disent qu'elles travaillent avec ces enfants pour les accompagner, pour faire s'exprimer aussi tout ce qu'ils ont en eux. et qui est extrêmement triste. Ils ont vécu aussi des situations extrêmement douloureuses souvent. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement avec des professionnels. Pour le coup, on a des professionnels formés à ça. On n'en a pas assez, malheureusement. Mais en termes de formation, on sait faire. Hein, et les personnels, alors notamment infirmiers, je disais, mais il y a aussi toute une série de psychologues dans l'éducation nationale. Nous, on dénonce souvent le manque de moyens, mais on peut quand même dire aussi qu'on a des ressources importantes dans l'éducation et que c'est important de les mettre à disposition de ces réfugiés ukrainiens, effectivement.
Comment cela se passe au niveau de la langue? Comment faites-vous pour que les élèves puissent comprendre les cours, tout simplement, les déplacés ukrainiens en France?
Alors, souvent, c'est effectivement un peu difficile au début. Souvent, il y a un ou deux élèves. Alors, ça se passe en fait de manière très informelle, hein, au cas par cas, en fait, selon les classes. Les collègues qui sont dans les UPE 2A ont un peu l'habitude de ça. Souvent, ils s'appuient sur un ou deux élèves qui ont une petite connaissance de la langue française, et donc pour que ces élèves-là traduisent à leurs camarades. Dans d'autres cas, il y a quasiment personne qui maîtrise la langue, et du coup, ça se fait au départ par des signes, par des dessins, par des gestes aussi, hein, avec des enseignants qui parlent en français, ça c'est important, mais qui montrent bien que c'est pas très important si l'élève, puisque c'est normal de qui comprennent pas tout, mais par contre qui vont essayer de parler avec d'autres langages, le langage des signes, des dessins, etc. Alors ça c'est pour les petites classes, hein, et puis après ça peut se passer différemment ailleurs. C'est vraiment au cas par cas, mais c'est pas du bricolage, hein, c'est vraiment une habitude qui a été prise par les personnels dans les UPE 2A. On sait que c'est comme ça aussi que ça fonctionne, que ça donne un cadre bienveillant et qui permet après très rapidement de progresser parce que dans leur environnement, eh bien, ils sont amenés à parler français. Souvent, les classes UPE 2A, ce qui est important, c'est qu'ils vont aussi en classe ordinaire, alors plus ou moins, selon le niveau de langue qu'ils ont. Ils sont aussi, évidemment, dans des établissements où il y a des classes ordinaires à côté des classes, et ça, c'est extrêmement important. Et du coup, tout ce qui est organisé, à la fois en termes de prise en petits groupes, parce que c'est important qu'ils se retrouvent en petits groupes, et qu'ils ne soient pas noyés dans des classes ordinaires, surtout quand ils parlent absolument pas, mais tous les temps qui sont à la cantine, dans la cour de récréation, avec les autres, pour qu'ils fassent des camarades dans l'ensemble de l'école, c'est hyper important et c'est très bien organisé, c'est pensé. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'avoir les Ukrainiens qui soient à part dans l'école, c'est au contraire de favoriser tous les moments d'échange. Donc tout ça, effectivement, se met en place sur le terrain. Après, voilà, s'il y a un flot important de réfugiés, il va falloir se mettre en quatre, hein, comme on dit. On sait faire, hein, mais c'est vrai que c'est une situation qui exige beaucoup de professionnalité et qui exige qu'on s'y attarde beaucoup, quoi.
Benoît Teste, le secrétaire général du syndicat enseignant FSU, il répondait à François-Xavier de Calonne. L'ONU va manquer d'argent pour venir en aide aux victimes de la guerre au Yémen. Les donateurs ont promis de donner 1,3 milliard de dollars, alors que les Nations Unies ont besoin de 4,3 milliards pour sauver la population yéménite d'une catastrophe humanitaire. En France, les associations qui viennent en aide aux étrangers sans papier tirent la sonnette d'alarme. Ces étrangers ont subi un enfermement abusif dans les centres de rétention administrative l'année dernière. La CIMADE et France Terre d'Asile notamment rappellent que la France a enfermé 42 353 personnes en situation irrégulière dans l'attente de leur expulsion. La durée moyenne d'enfermement a atteint les 22 jours. Des manifestations dans plusieurs villes de France ce jeudi à l'appel des syndicats. Les manifestants ont réclamé des hausses de salaire. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont participé à la manifestation organisée à Paris, notamment Philippe Poutou, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Une conférence de presse d'Emmanuel Macron ce jeudi après-midi, ce n'est pas le président qui s'est exprimé, mais le candidat. Il a précisé plusieurs aspects de son programme à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Après la crise du Covid et en pleine guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de renforcer l'indépendance de la France sur les questions agricoles, industrielles et énergétiques. Parmi les sujets qu'Emmanuel Emmanuel Macron a évoqué également le grand âge, la pauvreté, l'accès aux droits, l'école, le harcèlement scolaire et le handicap. La Turquie et la Tunisie, invitées du 17e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, qui se déroule à Saint-Denis et à Paris jusqu'au 1er avril, entretien avec la directrice artistique du festival, Emma Raguin.
Pour l'historique, c'est notre 17e édition. On avait commencé en 2006 avec le Panorama des cinémas du Maroc. Le fondateur, le président fondateur est cinéaste d'origine marocaine et avait découvert toute une cinématographie qu'on ne connaissait pas en France quand il avait cherché un peu à faire un tournage au Maroc et à rencontrer des professionnels. Et il s'était dit, oh mais ces films sont extrêmement intéressants. Ils sont merveilleux et c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas vus en France. Donc, il avait eu l'idée de cette première édition et était allé voir le directeur du cinéma à l'écran, Boris Spir, pour lui proposer cela. Première édition, donc cinéma du Maroc, un succès fou, le public au rendez-vous et donc on commence un peu à réfléchir à l'évolution. Et il y a une communauté algérienne assez importante dans la région Île-de-France et des films passionnants aussi. Donc du coup, dès la deuxième année, on a fait une fenêtre sur l'Algérie. Et ensuite, très rapidement, c'est devenu le panorama des cinémas du Maghreb. En parallèle, il y a toute une professionnalisation au Maghreb ou au Moyen-Orient. Il y a des festivals de classe A, dont un festival de classe A, c'est un festival avec un marché du film, vous le savez sans doute. Et donc, il y a eu aux Émirats Arabes Unis le festival de Dubaï. Donc, il y avait des financements pour le développement des films, l'écriture, la post-production, etc. Et il y a eu comme ça une montée en puissance et du nombre de films produits dans cette grande région du Maghreb et du Moyen-Orient, et également de la qualité des films. Donc, nous, on s'y est intéressés immédiatement et on est devenu PCMMO, Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient.
Alors, quels sont les pays invités cette année lors de ce festival qui se déroule à Saint-Denis ?
Tout à fait. Alors, le cœur du festival est à Saint-Denis, c'est Focus Turquie et Fenêtre sur la Tunisie contemporaine. Alors, pour la Turquie, c'est vraiment la première fois qu'on s'intéresse de près à ces cinématographies, sachant qu'il y a des grands cinéastes turcs tels que Nuri Bilge Ceylan qui avait eu la Palme d'Or à Cannes avec Winter's Sleep, mais on a voulu aussi regarder davantage du côté de la jeune génération, on va dire, de la création contemporaine. En particulier, il y a une dizaine de cinéastes, de réalisatrices totalement passionnantes avec qui explorent des genres cinématographiques très différents, que ce soit du film d'anticipation à une fiction un peu plus classique, à des documentaires sur des sujets de société très importants comme la question d'être réfugié, parce qu'il y a pas mal de réfugiés syriens, comme vous le savez sans doute, en Turquie, et qu'est-ce qui se passe quand on est réfugié homosexuel, etc. Une création extrêmement stimulante en termes de forme et en termes de sujet.
Autre grand pays du cinéma, la Tunisie.
Ah oui, oui, oui. Alors, on a eu beaucoup de plaisir de revenir sur les cinématographies de Tunisie. Donc là, c'est un pays passionnant parce qu'il y a une grande économie du cinéma. C'est-à-dire que non seulement les films sont produits, mais en plus, ils sortent en salle en Tunisie. Le public va aller voir, le public tunisien soutient son cinéma. C'est vraiment une exception au Maghreb. Il y a également ce grand festival de cinéma, les journées cinématographiques de Carthage. Et donc, cette année, on a de la chance parce qu'on va recevoir Jilani Saadi pour son film Insurrection, qui a eu le prix Tanit de bronze à Carthage. On suit également un petit peu, on se fait un petit bilan 10 ans après les révolutions avec des documentaires, notamment le documentaire de Widet Zorlami, Fatala TV, 10 ans et une révolution plus tard. Mais également, Raja Amari a fait un documentaire sur les élections les plus récentes. Et on voit là aussi que les femmes sont au rendez-vous dans la société civile. Et donc, ça promet des soirées rencontres puisqu'on a la chance d'avoir les cinéastes présents pour toutes les séances. Donc ça promet des soirées tout à fait belles et intéressantes.
Voilà. Avec quelques avant-premières, notamment Paysages d'automne de Merzak Alouache.
Oui, alors Merzak Alouache, en fait, son film n'est pas encore sorti parce que avec ces 2 années Covid, je pense que voilà, les conditions n'étaient pas réunies. Donc on est très heureux de montrer ce polar tout à fait intéressant dans la filmographie de Merzak Alouache parce que il produit, finalement, on peut se rendre compte sur ces 10 dernières années que chaque fois qu'il y a un nouveau film, il explore un nouveau sujet, un nouveau genre et ce film est vraiment nous a beaucoup plu en équipe. On est très contente de le montrer. On va également montrer son documentaire Des femmes. Alors ce documentaire a ceci de particulier, c'est que il avait déjà à l'époque en 88, alors qu'il y avait des mouvements de la population, des manifestations, il était déjà allé rencontrer des femmes et qui parlaient des mouvements féministes, de l'égalité qu'elles souhaitaient, etc. Et là, avec le Hirak, donc 30 ans plus tard, il va à la rencontre de femmes aussi du carré féministe qui parlent des combats d'aujourd'hui. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'on a le sentiment que les combats sont toujours les mêmes, mais qu'en même temps, il y a une nouvelle génération de féministes qui est soutenue par les anciennes, qui est en train de faire bouger les lignes. Et ça, c'est vraiment magnifique à voir.
Emma Raguin, directrice artistique du 17e Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, un festival qui se déroule jusqu'au 1er avril au cinéma L'Écran à Saint-Denis et dans d'autres cinémas à Paris, notamment le Luxor. À 19h et 23h, Et si on en parlait, émission consacrée à la façon dont se déroule l'élection présidentielle, les invités d'Alexis Bachelet, le politologue Philippe Moreau-Chevrolet et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.